que nous sommes occupés le matin à méditer depuis le début de notre retraite. Nous sommes au chapitre 6, et nous reprenons notre étude au point où nous l'avons laissé, c'est-à-dire au verset 64. Nous en avions terminé. Et nous lirons jusqu'au verset sur le 13 du chapitre 7. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point, car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Et il ajouta, « C'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. » Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as, non pas les paroles, mais tes paroles, le texte a été mal traduit, tu as tes paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. » Jésus leur répondit, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon ?» Il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon, car c'était lui qui devait le livrer, lui, l'un des 12. Après cela, Jésus parcourait la Galilée, car il ne voulait pas séjourner en Judée, parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Or, la fête des Juifs, fête des tabernacles, était proche, et ses frères lui dirent, « Pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. Personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde, car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. » Jésus leur dit, « Mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. Le monde ne peut vous haïr. Moi, il me hait parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Montez-vous à cette fête. Pour moi, je n'y monte point parce que mon temps n'est pas encore accompli. » Après leur avoir dit cela, il resta en Galilée. Lorsque ses frères furent montés à la fête, il y monta aussi lui-même, non publiquement, mais comme en secret. Les Juifs le cherchaient pendant la fête et disaient « Où est-il ? » Il y avait dans la foule grande rumeur à son sujet. Les uns disaient « C'est un homme de bien », d'autres disaient « Non, il égare la multitude ». Personne toutefois ne parlait librement de lui, par crainte des Juifs. Amen. Parmi ses disciples, ceux qui le suivent, certains n'ont pas une véritable foi. Il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point, c'est-à-dire qui n'ont pas la foi. Ne vous voyez d'ailleurs comme le Seigneur Jésus tranche les choses, il ne s'agit pas d'une foi approximative, d'une foi plus ou moins réel, il s'agit d'avoir ou de ne pas avoir la foi. En cela, comme en toute chose concernant l'attitude envers Dieu, concernant les choses que Dieu nous demande, auxquelles il nous invite, c'est le oui ou le non. Il ne peut pas y avoir, n'est-ce pas, de moyen terme, le oui ou le non. Il y en a qui ne croient point. Ils avaient tout de même quelque chose pour être là, pour figurer dans le rang des disciples, mais ils n'avaient pas la foi authentique. Vous savez que nous avons parlé de la véritable foi, nous avons vu qu'elle est tout autre chose que ce qu'on en fait. généralement de notre temps. Être dans les rangs des disciples, ou aujourd'hui dans le rang des assemblées chrétiennes, cela ne prouve pas que l'on est un vrai croyant. Même si l'assemblée où l'on se tient est une assemblée vivante, une assemblée vraiment évangélique, ça ne prouve pas que l'on est soit un vrai chrétien. Le vrai croyant est celui, nous l'avons vu, n'est-ce pas, dans cet évangile, qui a été attiré par le Père vers le Fils. S'il n'y a pas eu cette attirance exercée par le Père, et nous avons vu que ce n'est pas un simple sentiment, tout autre chose, s'il n'y a pas cette attirance nette, précise, du Père vers le Fils, et cette attirance qui est à ce moment-là d'ailleurs une élection, n'est-ce pas, qui manifeste l'élection, plus exactement, s'il n'y a pas cette attirance, il ne peut pas y avoir de vrai croyant. Le vrai croyant est celui qui est attiré et donné au Fils. Nous avons vu les deux expressions, il est attiré et le Père le donne au Fils. Et cela, cette attirance, s'exerce sous la forme d'un enseignement intérieur, qui est cette illumination dont a parlé Paul au chapitre 4 de la deuxième épître aux Corinthiens. C'est une illumination, ce n'est pas un enseignement qui va supplanter celui que Christ donnera ou qui va rendre superflu celui de Christ. C'est un enseignement qui n'a qu'un seul objet, c'est d'amener à Christ. Mais le mot enseignement et la notion d'enseignement que nous avons trouvée dans le chapitre 6, ici, nous montre bien que ce n'est pas, n'est-ce pas, simplement un sentiment, quelque chose de vague ou comme un instinct religieux, n'est-ce pas? C'est un enseignement, quelque chose de précis, une connaissance qui a ce seul objet de porter une créature humaine vers le Christ. Et cela se traduit dans les épîtres, soit par le mot d'élection, soit par le mot de choix, soit aussi par le mot d'appeler. Les appeler, c'est ça. Chers amis, c'est à restaurer tout ça dans notre foi évangélique. Nous avons un tas de choses qui sont un peu en ruine, n'est-ce pas? Les darbistes, je m'excuse pour ce terme, ont quelquefois l'habitude de dire, n'est-ce pas, l'Église aujourd'hui est en ruine. Mais il est vrai qu'il y a, n'est-ce pas, des ruines. Seulement, ce qu'il faut, c'est ne pas rester à la constatation, mais ces ruines, les relever. Les relever. Nous sommes là pour rebâtir sur d'antiques fondements. Les antiques fondements sont toujours là. Le fondement de Christ et des apôtres est là. Il faut rebâtir dessus. Donc, il y a des gens qui ont été attirés, qui sont des appelés, d'autres qui ne le sont pas, qui sont des sympathisants, qui sont des faux croyants, sans que pour cela le terme soit péjoratif, n'est-ce pas? Ils n'ont pas la vraie foi, alors on peut les appeler des faux croyants. Ils ne sont pas toujours des gens mal intentionnés, mal avisés, n'est-ce pas? Mais ce sont des gens dont le cœur n'est pas capable, le cœur est resté dur. Peut-être plus tard cela s'ouvrira-t-il et Dieu les attirera-t-il au Fils, nous ne savons, mais pour l'instant, n'est-ce pas, il y a des gens qui sont ainsi et qui peuvent, hélas, malheureusement, rester ainsi. C'est ce que un auteur d'une traduction anglaise, Scofield, appelle les professants. Le terme professant est employé dans diverses acceptions, mais Scofield appelle professants justement les faux croyants. Ce sont des gens qui professent croire. Ils ont en somme ce que nous avons appelé, eu l'occasion d'appeler, la foi d'information, mais ils n'ont pas la foi d'appropriation. Ils n'ont pas saisi. Ils n'ont pas pris pour eux-mêmes. Et ils ne peuvent pas prendre si vraiment ils ne sont pas attirés du Père vers le Fils. Et il arrive un moment où ces gens-là doivent être, doivent apparaître, ils doivent être décantés de la masse. Nous disons quelquefois, nous, des gens se retirent de nos assemblées, nous disons, ce sont des rétrogrades. Il faut dire que dans le temps où nous sommes, il y en a beaucoup qui se retirent des assemblées. Hein? La preuve, c'est qu'on a souvent du mal par les baptêmes à compenser numériquement, et alors ils disparaissent. Il y a parmi eux, bien sûr, des gens que nous appelons des rétrogrades, mais il y a aussi des gens qui se retirent parce que ils étaient des professants, simplement, et ils ont été attirés, mais ils n'ont pas pu rester. Quelque chose, n'est-ce pas, leur a montré qu'ils ne pouvaient pas aller plus loin. Jésus, d'ailleurs, n'hésite pas à se séparer des disciples non appelés. Il n'hésite pas, voyez-vous. Et il le dit carrément, il y en a quelques-uns ici qui ne croient point. Ils étaient ses disciples, ils étaient parmi les disciples. Ce qui veut dire, très certainement, que même, en se reportant, n'est-ce pas, au début de l'Évangile, que même ils avaient été baptisés. Parce que les disciples de Christ, d'une façon générale, n'étaient pas comptés comme disciples. Il y a même, certains exégètes le font ressortir, il y a même souvent une coïncidence dans le texte original de disciple, de la notion de disciple et de la notion de baptisé. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'ils faisaient et baptisaient plus de disciples que Jean. Faisaient et baptisaient. C'était pas lui qui baptisait, n'est-ce pas? Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, c'était ses disciples, les apôtres qui baptisaient, les disciples qui venaient. Mais on les baptisait. Sans doute ceux-là étaient-ils baptisés, nous avons tout lieu de le penser. Eh bien, le Seigneur leur dit, je vois qu'il y en a qui ne croient pas. Et Jésus savait dès le commencement, dès le moment où ils sont venus, il le savait, il ne les a pas repoussés, n'est-ce pas? Il les a laissés venir, tous les hommes qui se sentent attirés vers le Seigneur peuvent venir, mais il faut qu'ils soient attirés par le Père, pour être vraiment les appelés et pour pouvoir persister dans la vie chrétienne. Jésus donc n'hésite pas à se séparer d'eux, mieux vaut un petit troupeau de gens bien fondés dans la foi et fermement attachés au Seigneur qu'une multitude parmi laquelle peuvent prendre place beaucoup de faux croyants. C'est ce qu'enseigne, ce que montre dans un livre récent, Alfred Cohen. Je ne sais pas si vous connaissez Alfred Cohen, qui est en Alsace, à Strasbourg, vous connaissez le nom, n'est-ce pas? Il a écrit plusieurs livres, qui ne sont pas évidemment des livres de plein évangile. Je connais son fils qui est étudiant à Reims d'ailleurs, et je lui ai fait parvenir par ce canal des petites observations, mais il faut bien dire que le travail fait par Alfred Cohen dans ses ouvrages est très important, très intéressant. Il a écrit notamment « Je bâtirai mon Église », il a écrit un autre livre « Qu'il soit un », et tout dernièrement « La nouvelle naissance », où il faut naître de nouveau, il faut quelque chose comme ça, n'est-ce pas, hein? Il faut que vous naissiez de nouveau, c'est ça, voilà, surtout les trois ouvrages Alfred Cohen, plus les traductions. Alors maintenant, il y a toutes les épîtres qui sont mises dans un langage moderne, mais qui ne peuvent pas servir à la prédication, ne peuvent pas servir. C'est intéressant peut-être d'avoir les épîtres dans un langage moderne, mais non pas pour la prédication. Eh bien, Alfred Cohen montre cela, et il le démontre le moyen d'une étude qui est très objective et appuyée par un grand nombre d'auteurs. Il a cela Ceci de bon, c'est qu'il a consulté beaucoup d'auteurs anglais, allemands et français, n'est-ce pas? Il peut très bien consulter des auteurs des trois langues. Et enfin, véritablement, c'est ce qu'il dit. C'est un peu étonnant, n'est-ce pas, cela? Mais l'Église n'a souvent été que le petit troupeau dont parle l'évangéliste Luc, ce petit troupeau. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas chercher, n'est-ce pas, à répandre l'Évangile, mais si, il faut chercher à le répandre le plus qu'on peut, même en ce temps. Bah, mais l'Église n'est pas appelée à être nombreuse, extrêmement nombreuse, c'est souvent le petit troupeau. L'enseignement que le Seigneur Jésus vient de donner, de manger sa chair et de boire son sang, qui a été jugé dur, cette parole est dure, par certains des disciples, a donc opéré un triage. Les vrais croyants allaient, eux, désirer se serrer encore plus autour du Maître, et les autres, eux, allait abandonner Jésus, partir. L'épuration est donc ici une œuvre de l'Esprit. C'est à l'ouïe d'une parole de Dieu que les professants s'écartent de Jésus. C'est une œuvre de l'Esprit. Je souligne cela parce que, n'est-ce pas, sous le prétexte qu'il peut y avoir des faux croyants, nous ne pouvons pas quand même faire une épuration nous-mêmes, qui soit une œuvre de la chair. Il faut que ce soit une œuvre de l'esprit. Si l'Église maintient son niveau spirituel, si elle cherche même toujours à grandir, à être l'image de l'Église corps de Christ, qui tire de son maître toutes les substances de son accroissement, comme dit l'Épître aux Éphésiens, si elle est cela, nécessairement, elle grandira, et en grandissant, l'épuration se fera par la parole de Dieu. Et vous qui êtes ici, vous voyez que nous enseignons la parole de Dieu avec toute sa rigueur, tous ses angles, sans chercher à en adoucir aucun. Et certains de nos enseignements peuvent vous paraître rigoureux et durs. Ne vous laissez pas décourager. Si vous êtes vraiment à Christ, eh bien, acceptez cette parole, même si vous ne la concevez pas tout de suite, même si elle vous semble un peu trop grande. Demandez simplement que le Seigneur vous fasse la grâce de l'accepter de toute manière, même avec tous ses angles, la parole de Dieu peut être mise en pratique d'une façon aisée. Et il faut qu'elle le soit ainsi. Le joug du Seigneur est léger. Ses commandements ne sont pas pénibles. Par conséquent, c'est vous qui, quelquefois, les voyez pénibles, les voyez trop difficiles. Mais faites disparaître cela par la foi, et sachez que le Seigneur, n'est-ce pas, à tout préparer, sa grâce est plus grande que vous ne pensez. Elle est plus efficace que vous ne croyez. Et par sa question, la question que Jésus pose alors, en s'adressant aux 12, il leur dit, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Par cette question, Jésus veut même éprouver les 12, les apôtres. Il veut les éprouver, même ceux-là, ceux qu'il a choisis lui-même. N'est-ce pas? Il veut les éprouver. Même, voyez, cette épuration doit aller jusque-là. Il faut qu'elle porte sur les 12. De toute manière, n'est-ce pas, cette question du Seigneur Jésus, et vous ne voulez pas, ne voulez-vous pas vous en aller, cette question montre quelque chose d'important, c'est que pleine liberté doit être donnée à tous, pleine liberté. Le Seigneur ne veut pas de gens qui soient forcés, contraints. pleine liberté doit être laissée à tous. S'ils entendent partir, ils le peuvent. Le Seigneur ne forcera rien. Le jeune homme riche a été libre, hein, n'est-ce pas? Et pourtant, Jésus l'aimait. Donc Jésus aurait été tellement heureux qu'il reste là, parmi ses disciples. Mais la liberté lui a été laissée. N'oublions jamais cela, que c'est dans la liberté que le Seigneur nous veut, n'est-ce pas? Il ne faut pas, par conséquent, se faire prier, faire comme des petits enfants capricieux, n'est-ce pas, qui se font prier, n'est-ce pas? Ils voudraient bien aller, mais ils aiment mieux qu'on les tire, qu'on les oblige presque, n'est-ce pas, qu'on les prie de venir. Eh bien, ne comptons pas que le Seigneur fasse cela. Le Seigneur manifestera toutes les puissances de son amour sur nous, n'est-ce pas, mais toujours, il ménagera entièrement notre liberté. S'ils entendent partir, ils le peuvent. S'ils entendent rester, ce sera selon leur cœur. Il faut que ce soit selon le cœur uniquement. Uniquement. Le Seigneur ne peut rien accepter, ne peut pas accepter la participation d'un disciple autrement que par le cœur. Ainsi, c'est à nous de venir, n'est-ce pas, sans nous faire prier, sans nous faire contraindre. Usons de notre liberté, mais sachons venir au Seigneur par la foi. Pierre va répondre à la question du Seigneur avec cette hardiesse et cette spontanéité qui caractérise cet apôtre. Vous savez, il n'a absolument rien compris, apôtre Pierre. Il n'a rien compris, nous l'avons déjà dit, il n'a rien compris à l'enseignement de la chair et du sang. Et la preuve, c'est que si nous nous reportons à Luc 18, par exemple, et au verset 34, nous verrons ceci. Tous les apôtres, n'est-ce pas, ici, sont en cause. Verset 34. Oh, nous pourrions lire au verset 31. Lisons à partir du verset 31. Jésus prit les 12 auprès de lui et leur dit, voici, nous montons à Jérusalem et tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme s'accomplira, car il sera livré aux païens. On se moquera de lui, on l'outragera, on crachera sur lui, et après l'avoir battu de verge, on le fera mourir et le troisième jour il ressuscitera. Mais ils ne comprirent rien à cela, c'était pour eux un langage caché, des paroles dont ils ne saisissaient pas le sens. Et ça, nous sommes, n'est-ce pas, au moment de la crucifixion, au moment où la crucifixion va s'accomplir. Ils n'ont rien compris, ils ne comprennent rien, n'est-ce pas, ça semble clair pourtant, mais ils ne comprennent pas, c'est-à-dire que ces choses-là, ils ne peuvent pas, si vous voulez, les réaliser. Ils ne réalisent pas cela du tout, c'est tout à fait, leur pensée est incapable de saisir de pareilles choses, de pareils événements annoncés, n'est-ce pas? Alors vous comprenez que l'enseignement de la chair et du sang, sur lequel nous avons passé la journée de samedi, les deux séances de la journée de samedi, et vous avez vu, n'est-ce pas, combien il faut vraiment réfléchir et regarder cela de près pour pénétrer cela, cet enseignement. Vous comprenez bien que Pierre n'a rien compris. Et d'ailleurs, c'est très bien qu'il n'ait rien compris. C'est très bien, et qu'il réponde sans avoir rien compris. Mais une force le retient, et c'est cette force-là qu'il va traduire dans sa réponse. Une force le retient, lui et les autres, il parle pour les autres, n'est-ce pas, ce qui arrive souvent. Une force le retient auprès de Jésus. Et alors, Pierre, certainement, a dit, « Seigneur, tu m'as déjà donné une parole de révélation. » Quand j'ai dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant », alors, Seigneur, donne-moi encore une parole de révélation que je réponde. Moi, je ne veux pas partir, les autres non plus ne veulent pas partir. Mais que dire, que répondre à notre Maître? Et du haut du ciel, le Père lui donne la seule réponse qui convient à des gens qui n'ont pas compris, mais qui gardent quand même, qui ne veulent pas perdre... Cette réponse, « Seigneur, à qui irions-nous? Où veux-tu que nous allions? Vers qui veux-tu que nous allions? Il n'y en a pas d'autre dans cet univers que toi. Où veux-tu que nous allions? » tu as des paroles de la vie éternelle et non pas les paroles. Ça a déformé quelque chose, enfin je n'entre pas là-dedans, mais le fait que les traducteurs ont mis les paroles, ça a déformé cela. Tu as non pas les paroles, mais des paroles. Ce que tu viens de dire, ce sont des paroles de la vie éternelle. C'est peut-être moins élégant au point de vue style, mais tant pis pour le style. Ce qu'il s'agit, n'est-ce pas, il s'agit surtout de rester fidèle au texte. Tu as des paroles de la vie éternelle. Et puis alors il ajoute, et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Que veux-tu, nous avons connu ça, c'est pas comment ça s'est fait, mais nous croyons, nous connaissons, tu es le Christ, pour ne pas aller à un autre qu'à toi, c'est à toi que nous sommes liés à toi, c'est tout ce qu'il fallait. C'est tout ce qu'il fallait. Et c'est tout ce qu'il faut pour des gens qui viennent. Je vais vous faire maintenant, en effet, là-dessus, une petite théorie. Il est bon de faire des petites théories, pas pour rester des théoriciens, mais pour bien comprendre les choses. On peut dire qu'il y a deux sortes de connaissances. Deux sortes de connaissances. Il y a premièrement celle qui est reçue, qu'on a pu recevoir et qu'on a pu assimiler, et qui devient aussitôt ce que nous avons appelé, n'est-ce pas, le témoignage en nous. Voilà le témoignage que nous portons. Nous portons le témoignage de ce qui est rentré, de ce qui a été assimilé par notre cœur, notre esprit. Ce que notre esprit a pu assimiler de la connaissance, n'est-ce pas, et quelquefois c'est tout à fait précaire, c'est tout à fait réduit chez de jeunes convertis. De nouveaux convertis, souvent, ça se réduit à peu de choses. Ils savent qu'ils ont connu, qu'ils ont cru, ils ont connu que Jésus est le Fils de Dieu, que Jésus est leur sauveur. Ils ont ressenti ce besoin d'un sauveur, besoin de quelqu'un qui lave leur conscience, leur péché, qui leur donne ouverture sur une grande liberté, n'est-ce pas, la liberté des enfants de Dieu, cette liberté, ce dégagement de toute charge, de tout trouble, de toute angoisse, n'est-ce pas, ils ont la paix, ils ont l'ouverture sur la foi et la paix, ils n'en savent pas beaucoup plus, n'est-ce pas, et ça, c'est la connaissance qui est reçue et qui est assimilée et qui devient tout de suite le témoignage de la personne. Mais il y a une deuxième connaissance, c'est celle qui est devant nous. Celle qui est devant nous, celle qui est encore à conquérir, et dont nous acceptons dans l'Écriture, et même par l'Esprit, l'énoncé, nous acceptons l'énoncé de cette connaissance, nous acceptons les paroles de cette connaissance, n'est-ce pas ? Mais nous ne la pénétrons pas. Nous ne l'avons pas pénétrée. C'était peut-être, par exemple, pour certains d'entre vous, le cas de manger la chair et boire le sang. Ben, le moment est arrivé pour vous de la pénétrer, n'est-ce pas ? Alors, il y avait donc deux sortes de connaissances. Il y a toujours une connaissance qui est vraiment assimilée, et dont que nous retenons bien, n'est-ce pas ? Que nous rafraîchissons, bien entendu, par la méditation, toujours, mais de cette connaissance-là, nous l'avons bien assimilée, elle est en nous. Puis, devant nous, il y a encore une connaissance que nous n'avons pas assimilée, mais que nous ne rejetons pas, que nous ne contestons pas, mais que nous acceptons sans encore la comprendre, n'est-ce pas ? Nous en acceptons l'énoncé sans la pénétrer. Les apôtres étaient donc prêts à accepter, eux, du Seigneur, toute parole. Ils n'en comprenaient pas beaucoup, ils n'avaient même pas compris le miracle des pains. Ils n'avaient pas compris la signification spirituelle de tout cela, n'est-ce pas ? Ils ne comprenaient pas maintenant, n'est-ce pas ? Mais ils acceptaient tout. Là était la marque de la vraie foi. Bien sûr, ils vont flancher un petit peu au moment de la résurrection. Quand la résurrection sera un fait acquis, alors là, n'est-ce pas, ils vont manqué à croire pendant un moment. C'est un fléchissement. Mais enfin, d'une manière générale, les apôtres acceptaient tout de leur Seigneur, ne sans rien discuter. Et vous voyez, n'est-ce pas, comme il convient que nous acceptions tout. Vous voyez des chrétiens qui viennent et puis qui disent « Mais, enfin, tout de même, ça ne devrait pas être comme ça, et ceci, et cela. » Alors là, chers amis, c'est mauvais. C'est mauvais, ça. Ne faites jamais cela. Demandez à savoir, demandez des explications, mais pas en contestant. Ne contestez pas ce que vous n'avez pas compris, n'est-ce pas ? Ne discutez pas, ne faites pas, n'engagez pas de dispute de mots. Je vais vous montrer dans deux exemples bibliques, naturellement, il faut toujours asseoir les choses sur la parole. Je vais vous montrer ces deux sortes de connaissances dont je viens de vous parler, celle qui est assimilée, que nous avons bien reçue, et puis celle qui est en nous, que nous avons encore à assimiler. Prenons l'épître aux Éphésiens, d'abord, aux Philippiens. Aux Philippiens, chapitre 3, verset 8. Et même je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Bon, je m'arrête là, n'est-ce pas ? Alors là, il y a une connaissance de Jésus-Christ que possède l'apôtre. Ben ça, il l'a, cette connaissance, je regarde toute chose, et il s'agit de l'apôtre Paul. Ben, il en avait certainement de la connaissance, et beaucoup. Mais il y a là une connaissance, n'est-ce pas, qu'il sait posséder à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Et la possession de cette connaissance lui a permis de renoncer à tout, et de regarder toutes les choses anciennes comme de la boue, afin vraiment de gagner Christ, c'est-à-dire d'être pleinement à Christ. Bon, voilà la connaissance qui est acquise, qui est assimilée. Continuons de lire. Verset 9. « Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. » Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Vous voyez, devant lui, il y a encore une connaissance qu'il désire, n'est-ce pas ? Et pour laquelle il faut qu'il devienne. Il y a un devenir devant lui, n'est-ce pas ? Afin de connaître Christ et la puissance. Il ne dit pas qu'il connaît tout à fait pleinement, à ce moment-là, Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui. Il y a devant lui encore une connaissance. Le mot connaissance ne veut pas dire simplement quelque chose qu'on apprend de la tête, n'est-ce pas ? Ça ne veut pas dire ça, d'ailleurs. Ça veut dire que c'est une connaissance de la vérité, une vérité qui est une réalité, n'est-ce pas ? Attention, ce sont des réalités à assimiler, les connaissances dont je parle. Mais vous voyez qu'il y a encore des connaissances qui sont devant cet apôtre, et pourtant, il en possède déjà beaucoup. Et puis, un deuxième exemple dans les Hébreux, au chapitre 5, Hébreux, chapitre 5, verset 11. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer, parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venu à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Nous voyons très bien ici, n'est-ce pas, qu'il y a des choses difficiles à expliquer, que ces gens-là, les premiers destinataires de l'Épître aux Hébreux, puis tous les autres destinataires qui sont dans leur cas, ces destinataires auxquels s'adresse l'auteur de l'Épître, ces destinataires ils ont encore beaucoup de connaissances à acquérir. Ils ont devant eux une connaissance qu'ils n'ont pas encore acquise, et qui est appelée ici une nourriture solide, et il faut encore revenir au premier rudiment, au lait, parce que même ça, même cette connaissance fondamentale, eh bien, elle n'est pas encore bien établie en eux, n'est-ce pas ? C'est pas encore suffisamment solide, alors il faut y revenir, il faut encore revenir au lait, et non à la nourriture solide. Mais la nourriture solide, ils n'en ont pas encore mangé. Bah, cependant, les gens comme ces gens-là doivent, n'est-ce pas, dire « Je crois à toute la révélation de Dieu. Je crois à tout ce que Dieu dit. N'est-ce pas ? Je le crois. » Et ils ne doivent pas contester, douter de ce qu'ils n'ont pas assimilé, compris, de ce qu'ils ne connaissent pas. Telle a donc été la position de Pierre et des apôtres, n'est-ce pas ? Il aurait pu dire ceci, « Seigneur, moi, je n'ai rien compris, je t'avoue que je n'ai pas plus compris que les gens qui s'en vont là-bas. » Seulement, la différence avec eux, c'est que moi, je ne veux pas te quitter. Moi, je ne peux pas te quitter. Il est impossible que je te quitte. Alors, nous avons cru, nous avons connu que tu es le Christ. Et à qui veux-tu que nous allions d'autre, n'est-ce pas ? Voilà, c'est son argument, et c'est l'argument que le Seigneur lui a donné d'en haut. Bah, c'est le bon argument. Il est attaché à la personne de Christ. La connaissance viendra ensuite par la personne de Christ. Hein? Christ t'éclairera. Crois d'abord, et puis Christ t'éclairera. Christ t'éclairera. Christ est là pour enseigner. Et alors là, Jésus va répondre ensuite aux douze, non pas à Pierre personnellement, mais aux douze. « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi ?» Vous les douze, et l'un de vous est un démon. Il est dommage que notre traducteur encore là se soit permis de transformer un petit peu le texte. Il faut faire attention, vous savez, nos traducteurs ne sont pas toujours des gens très soucieux, quoique de grands linguistes, ils ne sont pas toujours très soucieux d'exactitude. Là, il ne s'agit pas d'arbitre traduit par diable. Et c'est diable qu'il faut voir. Hein? L'un de vous est un diable. C'est pas la même chose, parce qu'un démon, c'est un ange déchu. Tandis que dire qu'est un diable, ça veut dire est un Satan. Hein? C'est un serpent comme Satan. C'est tout à fait différent. Hein? C'est pas un des anges déchus qui sont avec Satan. Hein? C'est Satan lui-même que le Seigneur désigne ainsi. Et textuellement, ça veut donc dire, l'un de vous est une incarnation de Satan, de l'esprit de Satan. Voilà. Hein? Non pas un démon. Un démon, ça voudrait dire un mauvais bonhomme, mal inspiré ou possédé du démon, d'un démon quelconque, n'est-ce pas ? Mais non, c'est bien plus grave que ça. Hein? C'est une incarnation de l'esprit de Satan. Et le Seigneur dit cela, n'est-ce pas ? Bien sûr, sous l'extérieur d'un disciple qui était comme les autres, soumis et même aimant d'apparence à l'égard de son Seigneur, se cache le serpent ancien. Le serpent ancien est là, tout comme il s'est caché, le diable s'est caché dans un serpent devant Ève, là il se cache dans un homme, il s'est caché bien sûr sous les dispensations précédentes dans divers personnages, le prince de Tyr, le roi de Babylone, etc., n'est-ce pas, dénoncés par Ésaïe et Ézéchiel, sont des personnages derrière lesquels Satan était, n'est-ce pas, puisque le prophète voit même le profil de Satan quand il regarde le roi de Babylone, n'est-ce pas, eh bien, la puissance prophétique le parle, le pousse à dénoncer Satan qui est là comme profilé par ce personnage de l'heure. Eh bien, donc là, sous l'extérieur d'un disciple soumis, et c'est ce que le Seigneur le fait ressortir, vous êtes là, c'est moi qui vous ai choisi, vous êtes douze, vous êtes mes apôtres. Vous êtes ceux que j'ai choisis pour une œuvre tout à fait particulière et grande. Eh bien, l'un de vous est un diable. L'un de vous est une incarnation de Satan. On peut dire que la confession que vient de faire Pierre jure avec l'état d'âme de ce Judas, c'est ce qui fait parler Jésus en cette circonstance, et cette confession de Pierre ne convient donc pas même à tous, pas même à ces douze que le Seigneur a choisis, cette confession ne convient pas, à tous. Il y en a un à qui elle ne convient pas du tout. Et Jésus fait là une déclaration qui ne pouvait que remuer la conscience des douze, n'est-ce pas ? L'entretien s'arrête là, mais il est évident qu'en entendant cela, quand ce sera le moment de la Sainte Cène où le Seigneur va dévider Judas, n'est-ce pas ? Eh bien, ils vont poser la question, est-ce moi, Seigneur ? Est-ce moi, Rabbi ? Est-ce moi ? Ils sont vraiment dans la crainte, dans la peur, dans le trouble. On se demande, chacun se demande si vraiment on peut être sûr de soi, n'est-ce pas ? Eh bien, cette déclaration de Jésus qui remue leur conscience a pour dessein de les humilier. Humiliez-vous sous la puissance, main de Dieu. Il faut toujours que la nature humaine soit humiliée par la parole de Dieu. Attention, nous sommes nature humaine. Ne vous glorifiez pas. Ne comptez pas sur vous-même. Vous êtes choisi. Vous êtes avec le Maître. C'est cela qui importe, uniquement cela. Mais attention de ne pas vous targuer de quelque chose, de ne pas vous croire quelque chose. Si quelqu'un est quelque chose, n'est-ce pas, c'est parce que le Seigneur lui a donné. Et même parmi donc ceux que Christ a choisis, un antichrist s'est glissé. Quelle ne doit pas être, mes amis, notre humilité et notre consécration dans l'Église de Jésus-Christ, parce que, chers amis, personne ne peut dire « moi, je suis sûr, moi, je suis solide, moi ». Non, personne ne peut le dire. Mais chacun doit savoir qu'il devra sa fermeté à un lien toujours maintenu avec le Seigneur dans la plus complète humilité. Là où Satan fait son entrée, là où Satan peut faire dérailler, dériver quelqu'un, c'est lorsque l'on quitte le terrain d'humilité. Et chers amis, ça il faut bien le dire, nous en avons des exemples à tous les âges, de serviteurs qui ont été de grands auxiliaires de Dieu et qui ont dévié, qui ont quitté le droit chemin, qui se sont enorgueillis, mais qui ont fait mauvaise œuvre après avoir fait une œuvre excellente par l'Esprit de Dieu. Et pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas, se sont pas tenus dans l'humilité. Et le diable, alors, a eu accès en eux. Tenons-nous au pied de notre Maître dans la plus grande humilité. Nous n'avons pas besoin de paraître en ce temps, pas du tout, au contraire, disparaissons. Et ne paraissons que quand l'Esprit se sert de nous. En Judée, les chefs des Juifs ne désarmaient toujours pas. Et l'heure du Seigneur n'était pas arrivée, et il fallait donc que Jésus évite de tomber entre les mains des Juifs, et particulièrement des autorités du Temple et des sacrificateurs, du Sanhédrin, n'est-ce pas ? Le Sanhédrin, il fallait qu'il évite cela, parce que son heure n'était pas là, son ministère n'était pas terminé sur la terre, et les Juifs étaient toujours prêts à l'arrêter et à le faire mourir, sous un prétexte ou sous un autre. Jésus était donc obligé, en ce temps-là, pendant un certain nombre de mois, il fut obligé de limiter son activité à la Galilée. Mais voici que survient la fête des tabernacles. La fête des tabernacles qui était célébrée du 15 au 22 du mois de Tisri, c'est-à-dire elle durait 7 jours, comme la Pâque, c'est la fête des tabernacles. Fête des tabernacles célébrée du 15 au 22 du mois de Tisri, c'est-à-dire un mois qui était à cheval sur nos mois de septembre et octobre, et qui était le 7e mois de l'année religieuse. Vous savez que dans le peuple juif, il y avait eu l'année civile et l'année religieuse. Et l'année religieuse qui avait été instituée au moment de la Pâque. Ainsi, là avait lieu la fête des tabernacles, qui était célébrée donc à ce moment-là, c'est-à-dire bien après la moisson. Et on était à ce moment-là au mois de septembre de l'an 29, étant donné que le ministère de Jésus, vous le savez, ne coïncide pas exactement avec notre ère. Le ministère de Jésus avait commencé en janvier l'an 27 pour se terminer en avril, l'an 30, à la Pâque de l'an 30. Et pour cette fête des tabernacles, le peuple devait vivre sous des tentes qui étaient faites de feuillage. Et ces tentes étaient établies sur les places, au bord des routes, sur les terrasses des maisons, partout. La ville de Jérusalem et ses alentours se couvraient de ces cabanes faites de feuillage. Et pendant les 7 jours de la fête, le peuple vivait là. Et c'était afin de rappeler les 40 ans du désert, la vie du peuple sous des tentes pendant les 40 années du désert. C'est de cette fête qu'il est donc ici question. La fête des Juifs, la fête des tabernacles, était proche. À ce moment-là, Jésus était célèbre déjà. Il était célèbre, c'est ce que nous dit l'évangile de Marc au chapitre 6 et au verset 14. Chapitre 6, verset 14. Le roi Hérode entendit parler de Jésus dont le nom était devenu célèbre. Et il dit, Jean-Baptiste est ressuscité des morts, c'est pour cela qu'il se fait par lui des miracles. Dont le nom était devenu célèbre. Donc déjà Jésus était célèbre partout, c'est ce qui va expliquer ce passage. Et Jésus est là avec ses frères qui sont bien entendu les fils de Marie et de Joseph. Ça, nous avons déjà traité la question, je n'y reviens pas. Ses frères, parmi lesquels il y avait Jacques et Jude, que nous connaissons, n'est-ce pas, comme auteurs de deux épîtres, et puis Jacques, qui a été un des anciens, des premiers de l'assemblée de Jérusalem. Mais pour à ce moment-là, les frères n'étaient pas du tout dans la foi. Ils n'ont aucune foi et naturellement, ils regardent, ils suivent eux aussi les événements qui concernent leurs frères avec la vue de tout homme. Et ils pensent que Jésus devrait exploiter la puissance qu'il possède et donner plus d'éclat et d'étendue à cette célébrité qui est encore naissante, bien que grande déjà, elle est encore naissante, elle peut encore bien s'étendre bien plus, et il ne faudrait pas manquer cela, voilà leur calcul, n'est-ce pas ? Quand on a en main une telle possibilité, il faut en profiter, il faut faire attention, n'est-ce pas, de bien répandre cette célébrité de la foi comme il convient. Et l'occasion de la fête des tabernacles leur paraît excellente, mais il ne faut pas à leur gré que Jésus laisse passer une telle occasion. Tout le monde est là, c'est le moment de faire éclater sa célébrité. Et alors, ils lui disent, pars d'ici, va en Judée, afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. Tes disciples, c'est-à-dire les disciples que tu as en Judée. Ils n'ignoraient pas qu'il avait fait des disciples en Judée. Mais ses disciples étaient séparés de lui depuis un certain nombre de mois, quelque chose comme au moins 7 mois. Ben, ils étaient séparés de Jésus. Alors, afin que ses disciples voient aussi, ceux de Galilée les ont vus, mais ceux de Judée n'en ont pas vu assez, ou tout au moins n'en ont pas vu depuis longtemps. Ben, et puis, les œuvres du Seigneur devenaient de plus en plus importantes, alors il faut qu'ils voient aussi les œuvres que tu fais. Personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Le texte, textuellement, c'est lorsqu'il est en vue de la célébrité, non pas désire paraître, mais en vue de la célébrité. Lorsqu'il est en vue de la célébrité, personne ne reste discret en secret. Personne ne se tient dans la discrétion, voyons. Quand on est en marche, là, pour être célèbre, pour devenir de plus en plus célèbre, alors on ne s'efface pas, au contraire, on se rend public, n'est-ce pas, on devient public. On se produit partout, on se montre partout. C'est le calcul du monde, n'est-ce pas, ces gens-là. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde, voyons, montre-toi. Voyez à quoi ils incitent Jésus. Mais la célébrité n'est évidemment pas le but de Jésus. Il œuvre même à l'encontre de sa célébrité et il va dire à ses frères quelque chose qui va tout à fait les surprendre. Il va leur dire « Mon temps n'est pas encore venu ». Pour eux, au contraire, le temps est tout à fait venu. Il ne faut pas perdre une minute, il faut se dépêcher. Il faut exploiter cette ascendance de célébrité. Mais le Seigneur leur dit « Mon temps n'est pas encore venu ». Et en plus, il va leur dire « Le monde me hait ». Le monde me hait ». Le monde le hait. Mais comment il est célèbre, il devient célèbre. Comment se fait-il que le monde puisse le haïr, comprenne pas ça. Et vous, le monde n'a pas à vous haïr parce que vous êtes du monde, vous êtes pareil au monde, vous êtes le reflet du monde, alors le monde ne hait pas ce qui est à lui. Cela, le Seigneur l'enseigne par ailleurs, n'est-ce pas? Mais moi, je suis venu pour rendre témoignage au monde que ses œuvres sont mauvaises. Je rends du monde un témoignage, et un témoignage, attention, c'est pas seulement une dénonciation verbale, mais c'est un témoignage. Le Seigneur Jésus montrait la sainteté. Je vous l'ai déjà dit que dans les œuvres du Seigneur, la sainteté avait une place considérable. N'est-ce pas ? Et non seulement il faisait des miracles, mais il pouvait dire « Qui est celui qui me convaincra de péché ?» Alors, la sainteté, Pierre nous le dit bien pour nous-mêmes, n'est-ce pas? Si nous nous sanctifions, eh bien le monde va nous juger, le monde ne va pas être content, il est tracassé le monde de voir que nous ne lui ressemblons plus, que nous ne nous livrons pas aux mêmes dissolutions que lui. Alors il n'est pas content, et c'est ça qui suscite cette haine. Une haine sans cause, sans raison plausible, bien sûr, mais c'est une haine qui vient de cette méchanceté, de l'état péché dont le monde n'est pas séparé, n'est-ce pas, dans lequel le monde vit, au contraire, et croupit. Alors cet état péché détermine une force hostile à l'égard de celui qui, par son attitude, par sa conduite, est un jugement constant. Et c'est bien ce qu'il faut que nous soyons devant le monde. Un jugement, il faut que nous soyons ce jugement-là, pas un jugement en parole, mais un jugement. Ben, il y a des gens qui seront effrayés, des gens qui ne seront pas contents, mais il y en a d'autres qui seront attirés à Christ. Ainsi, voilà quelle sera la réponse du Seigneur Jésus à ses frères. Quant à vous, le monde auquel vous ressemblez n'a pas de motif, évidemment, de vous haïr. Jésus ne saurait déférer à l'invitation de ses frères qui sont conduits par l'esprit du monde, qui ont en eux les pensées de tout le monde, c'est-à-dire les pensées de l'opinion la plus nombreuse, n'est-ce pas le monde, c'est ça, c'est l'opinion la plus nombreuse, des pensées d'aveuglement, qui sont tournés vers la recherche des avantages dans ce monde, des profits, n'est-ce pas, la célébrité, une source de tout ça. Alors, ils ne voient que cela, bien entendu, Jésus ne saurait les écouter et monter à la fête avec eux. C'est une chose que vous le comprenez bien, qui était impossible. Jésus va donc laisser partir ses frères avec l'ensemble du peuple qui, en nombreuses caravanes, va se diriger vers Jérusalem. Et après leur départ, lui s'étant retiré un instant, il va partir lui aussi pour Jérusalem, mais cela très discrètement, comme en secret. Il va partir non publiquement, mais très discrètement, afin de n'être pas vu des foules. Il va monter à Jérusalem selon le seul conseil de son père pour la seule cause de l'Évangile. Il ne peut pas agir autrement, et encore là, chers amis, il nous faut souligner une leçon. Si le Seigneur a fait cela, eh bien nous devons le faire. Et nous ne devons pas suivre les incitations des gens qui nous entourent, fussent ces gens nos frères, nos parents, n'est-ce pas, les plus proches. Nous ne pouvons pas les suivre, mes amis. Attention, c'est un péché. C'est une offense à Dieu si nous nous laissons incliner par le conseil de ceux qui, eux, voient les choses selon le monde, n'est-ce pas, selon les pensées du monde, et qui nous disent, mais fais donc ça, mais tu es chrétien, mais tu vois, tu as ceci, tu as pas mal réussi, là, mais va donc, mais fais ceci, mais fais cela, on me l'a dit, n'est-ce pas, on m'a dit, mais pourquoi vous n'iriez pas prêcher de telle manière, mais vous savez, des portes peuvent s'ouvrir, ça c'est une chose facile, n'est-ce pas? Et pourquoi? Des gens qui ne sont pas convertis du tout, des gens qui ne voient qu'une chose, n'est-ce pas? Peut-être un certain nouveau, quelque chose de nouveau, quelque chose, n'est-ce pas, qui va pouvoir faire un peu de bruit. Mais chers amis, il faut se garder de cela, il faut faire attention. D'où viennent les invitations qu'on peut nous adresser de faire une chose pour ne pas se laisser entraîner? Il ne peut être que sur le conseil de Dieu, que ça ne peut être que si l'Esprit nous le dit, que nous fassions une chose, n'est-ce pas? Quelquefois des gens pourraient vous dire, mais venez donc là, mais venez faire ceci, mais venez, on va faire une grande, quelque chose de grand, quelque chose de magnifique. On l'a dit aussi au Sadhu Sondersing. On lui a dit ça. Il a même vu un certain personnage assez mystérieux qui est venu lui dire, mais il faut venir en Europe, et puis en Europe, on va organiser des réunions magnifiques, etc. Et quand il a senti cet homme de foi qui était devant lui, il a dit, arrête-moi, Satan. Pour faire attention, ça ne peut pas toujours des choses, des invitations à des grandes manifestations, n'est-ce pas, ou à des grands développements, mais même s'il s'agit de nous inciter à des choses, à certaines choses, chers amis, mais faites attention, mais n'y allez pas, si c'est l'esprit du monde qui guide les gens qui vous conseillent, n'y allez pas, ne suivez pas, il faut être net avec le Seigneur, n'est-ce pas, ça peut être des petites choses, mais il faut être fidèle dans les petites choses. Tout à fait fidèle dans les petites choses en ça. Vous ne le serez jamais dans les grandes. Alors faites attention à ça. La plupart du temps, n'est-ce pas, un parent vient, oh ben viens donc au mariage, viens donc à la noce, viens à la communion. Mais viens, ben oui, ben, tu peux venir, mais bien sûr, ben oui, ben, tu es chrétien, ben au contraire, ça très bien, tu verras. Mais oui, viens, puis tu vas nous chanter des cantiques, toi aussi et ta femme, tu vas nous chanter des cantiques. Allez, viens donc, n'est-ce pas. Mais oui, oh, tout ça, ce que je vous dis, ça a été vécu. Alors des chrétiens disent, bon, on y va. Chers amis, pour ma part, je peux vous le dire, nous avons de la famille aussi, bah, nous aussi. Eh bien, je ne vais, communion n'est pas question, bien entendu, ça n'est pas question. Mais les mariages, les cérémonies, quelles qu'elles soient, je n'y vais jamais. Je n'y mets pas les pieds. Je ne m'approche même pas. Au point que maintenant, tout le monde le sait dans la famille, et puis on ne nous invite plus. Ben, c'est très bien. Ça, c'est très bien. Mais je n'y vais pas. Je n'y vais pas. Il faut savoir, mes amis, n'est-ce pas, ne pas suivre du tout le conseil de ceux qui parlent par l'esprit du monde, même s'ils ne sont pas, si vous voulez, extérieurement méchants, même si ce sont des braves gens, comme on dit, n'est-ce pas. Oh, il est bon enfant, celui-là, oui, il peut être bon enfant, mais il apporte le conseil du diable, il nous ferait faire quelque chose qui n'est pas du tout la volonté de Dieu, la volonté de l'esprit. Il faut être absolument catégorique. Et vous voyez, les frères de Jésus, le Seigneur leur refuse. Nous avons là aussi une très belle leçon. Il leur refuse. Eh bien, peu de temps après, parce que nous ne sommes pas ici tellement loin, n'est-ce pas, de la croix, eh bien, peu de temps après, ils vont se convertir. Les frères de Jésus vont se convertir. Ils auront compris. Ils comprendront plus tard. Mais si Jésus avait dit, oh, ben, je ne veux pas vous faire de la peine, allez, bon, oh, ça m'ennuie un peu, je ne sais pas ce que je voulais, mais enfin, bon, allez, ça va, je vais avec vous, va, c'est ça. Mais non, 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 ça, c'est pas comme ça qu'on gagne, c'est pas en cédant qu'on gagne, c'est en restant droit sur le témoignage. Il faut savoir refuser, il faut savoir peut-être contrarier nos parents, n'est-ce pas, sans méchanceté, sans paroles dures, bien sûr, mais des paroles nettes. Et puis, alors, là, nous faisons du bien. Nous leur faisons du bien. Il n'y a qu'une manière de faire du bien, c'est d'être soi-même absolument strict et fondé sur le témoignage. Jésus, donc, va se rendre, lui, seul, après, à la fête de Jérusalem, et là-bas, notre évangéliste Jean nous dit qu'il était un sujet de préoccupation auquel personne ne pouvait se soustraire. Dans la foule, on parlait de lui de tous les côtés, et il était, en somme, le sujet du moment, le sujet de l'heure. La foule était même passionnée, c'était une véritable passion qui s'était produite au sein de la foule. Les uns étaient pour lui, les autres étaient contre lui, et deux opinions opposées avaient cours. On peut voir dans Jean 9 et verset 16 ce que ça pouvait donner. Sur quoi quelques-uns des pharisiens disaient « Cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat ». D'autres dirent « Comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles ?» Et il y eut division parmi eux. Ils dirent encore à l'aveugle « Toi, que dis-tu de lui sur ce qu'il t'a ouvert les yeux ?» Il répondit « C'est un prophète. » Eh bien, vous voyez, n'est-ce pas, comment le peuple était divisé. Les uns disaient « Mais il égare la multitude. » Les autres disaient « C'est un homme de bien. » N'est-ce pas? Tout le monde était divisé. L'homme était remué intérieurement par Jésus. Et c'est une chose à retenir. En somme, Jésus remuait le cœur d'à peu près tous les hommes. Personne n'était indifférent. On ne sait pas encore dans cette foule qui est celui qui croira, ou qui est celui qui sera appelé, n'est-ce pas, on ne peut pas, ou qui sera laissé, on ne peut pas le dire. Ce ne sont pas toujours les premiers contradicteurs qui sont les incrédules de demain. Attention, Nathanaël lui-même, n'est-ce pas, qui va suivre le Seigneur, et qui va prendre un autre nom après, eh bien, Nathanaël avait dit, lorsqu'on lui a parlé de Jésus de Nazareth, il va dire « Mais peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ?» Lui aussi, d'abord, il a une parole de doute, n'est-ce pas ? Et il n'est pas sûr que cet homme-là soit un homme de bien. hein, voyez. Mais ensuite, cet homme qui cependant est droit va voir Jésus et il va suivre Jésus sans plus s'inquiéter de rien. Donc on ne peut pas dire, quelquefois les premiers contradicteurs sont au contraire les croyants de demain. Les contradicteurs. Ce n'est pas toujours ceux qui disent, ah, cet homme, oh non, c'est un homme de bien, n'est-ce pas, moi Jésus, je respecte, hein, moi Jésus, je crois que ceci. Et ceux-là, souvent, ils en restent là. Hein, ils restent à une foi de professants, et ils ne viennent pas, ils ne saisissent pas. Tandis qu'il arrive souvent que des contradicteurs saisissent. Alors, donc, n'est-ce pas, ne prenons pas les contradicteurs d'un moment pour des incrédules, ben, les incrédules, ça se trouvera peut-être justement chez ceux qui, avec une parole plus ou moins doucereuse, auront toujours dit du bien de Jésus. D'ailleurs, il nous est enseigné que de dire du mal de Jésus, cela peut être pardonné. Ben, ce qui n'est pas pardonné, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit, le péché contre le Saint-Esprit. En ces instants, bien sûr, il y a quelque chose de tout sens qui étreint la foule, c'est la peur. La peur des autorités et la peur du jugement des autres, de l'opinion générale. Et alors ça paralyse la foule. Personne ne parlait librement, alors on parlait en petit comité, en cachette, parce que on avait peur des Juifs, et puis on avait peur surtout... Bah, si surtout on était quelqu'un, vous voyez, d'être trouvé un adepte de cette secte, comme on pouvait dire, n'est-ce pas, cette nouvelle secte, et d'être considéré parmi les disciples de Christ. Alors, on avait peur de l'opprobre, c'était l'opprobre, et on la craignait beaucoup. Eh bien, chers amis, avant de nous arrêter, puisque nous resterons ce matin sur cette constatation de la division de l'opinion publique concernant Jésus, et puis de la peur qui étreint tout le monde, nous pouvons dire que notre société actuelle est encore tourmentée par Christ si occupée que puisse être la terre aujourd'hui par le marxisme, par le matérialisme, n'est-ce pas, marxisme, c'est-à-dire toutes les formes de marxisme, communisme compris, n'est-ce pas, malgré cela, l'incrédulité ou l'athéisme de principe, qui est devenu même un principe d'État, n'est-ce pas, malgré cela, malgré l'incrédulité de tous ceux qui sont même dans des nations de liberté comme l'Occident, et qui peuvent très bien être croyants sans que personne leur dise quoi que ce soit, eh bien, n'est-ce pas, la terre aujourd'hui est livrée, on peut dire, à l'incrédulité, eh bien, malgré cela, la terre est tourmentée par Christ, chers amis, croyez-le, et cela peut se voir de différentes manières. D'abord, l'éclosion extraordinaire. J'ai vu ça chez un libraire il y a quelque temps, je regarde souvent les titres des livres, on voit beaucoup de livres qui ont trait à Dieu. Pas de sorte de livres, on ne s'amuse pas à les lire parce qu'on n'en finirait plus, puis il y a tellement de bêtises et de choses invraisemblables là-dedans, n'est-ce pas, que ça n'a pas d'intérêt. Mais on voit beaucoup de livres tout de même, n'est-ce pas, qui portent le nom de Dieu, n'est-ce pas, qui ont trait à Dieu. Puis d'autres, beaucoup, qui ont trait à Christ. Et même dans ceux qui ont trait à Dieu ou aux religions, Christ a toujours une place. Ainsi, une éclosion de livres extraordinaires. À notre époque actuelle, il y a peut-être 10 à 15 000 au moins ouvrages et qui traitent de Christ. Hein? Et puis, ce n'est pas rare que vous entendiez prononcer ce nom. Même chez des gens qui font profession de ne pas croire. Et puis ensuite, n'est-ce pas, les cosmonautes russes, même, hein, et il y en a deux particulièrement, dont les paroles sont restés confinés et qui ont parlé de Dieu. Mais quel besoin ont-ils de parler de Dieu et de Christ, puisqu'ils ne croient pas, qu'ils le rejettent, qu'ils laissent? Je vous ai parlé l'autre jour, n'est-ce pas, de Staline, selon le récit de sa fille, dans le second ouvrage de sa fille, son nom est difficile, c'est pas facile à prononcer son nom. Bon, eh bien, selon le récit donc de la fille de Staline, je vous ai raconté ce repas auquel elle a assisté, et à deux reprises, ça dans une espèce de crestation, de méchanceté, elle a vu son père prononcer le nom de Christ. Et il se prend pour le Christ, celui-là. Voyez-vous, n'est-ce pas? Christ tourmente le cœur des hommes, même de tous ces incrédules. Et ça, c'est une chose voulue de Dieu, parce que le jugement vient. Et personne ne pourra dire, moi, Christ, je ne connais pas. Et vous savez que la prédication de Christ ne se fait pas seulement par ceux qui sont chargés de le prêcher, mais vous voyez que Christ, n'est-ce pas, tourmente la terre. Tourmente la terre. En Chine aussi, j'ai eu des témoignages selon lesquels les Chinois, eux aussi, avec leur révolution culturelle, sont travaillés, intérieurement travaillés. C'est un nom qui les travaille. Alors, n'est-ce pas, ce qu'il y a, c'est que on a peur d'être pour la foi véritable. On ne veut pas, mais vous voyez que Dieu alerte les consciences. Et cela est une chose nécessaire, une chose utile. Bien entendu, beaucoup dans notre génération, qui est la génération, disons, de la fin, n'est-ce pas, beaucoup de gens resteront incrédules et ne résisteront à ce tourment de leur conscience, mais il n'empêche que Christ tourmente encore la société moderne. Et si nous avons, nous, du dévouement et de la foi, mes amis, eh bien, nous irons hardiment prêcher Christ, hardiment, mais encore est-il qu'il faut apporter, comme Christ l'a fait en Palestine, il faut apporter le témoignage des œuvres de puissance et les œuvres de sainteté.